Philippe Steinmann, Passiflore, roman, première partie. La ville avait décidé d'appeler ce petit parc le jardin d'hiver. Charles Gibout venait d'y entrer, comme il le faisait souvent, pour se délasser à la fin de ses journées de travail. On n'était pas encore au crépuscule, mais il y avait dans l'air un froid rampant qui l'engagea à grignoter quelques petits brins. Et chaque fois que Charles Gibout marchait dans ce parc, il remarquait que le sable crissait sous ses semelles de cuir, et il se répétait « C'est étrange, le sable crisse sous mes pas. » Pourtant, ses chaussures n'étaient pas de la première jeunesse. Le cuir, assoupli par les allées, les venues, les trottoirs, les escaliers d'ici ou de là, le cuir aurait dû se plier gentiment, ne pas faire de bruit, comme Charles s'efforçait de ne plus en faire. La plaine rase des pensées de Charles Gibout continuait de le lisser sous ce ressac de sensations creuses, car il était de ceux qui ne pensent ni ne réfléchissent plus beaucoup. Peut-être les gens de la petite ville se demandaient-ils si cet homme s'ennuyait tout bonnement, car il en donnait la banale impression. Sur l'ocre glaise de chemin ratissé sans soin par des employés d'une mairie qui faisaient dans le social, Charles Gibout voyait son pied gauche dépasser lentement son pied droit, puis son pied droit reprendre la distance perdue. Et il marchait la tête toujours penchée pour vérifier un double principe au choix, que ce geste indique la réflexion intense ou sa désespérante et moire absence. Ce dernier principe était devenu pour lui quotidien. L'allée s'avançait en douceur, un tantinet bombé sur ses rebords que l'on avait enfestonné de fer cintré et enfourné dans le sol par décor. Ces petits arcs en torgliglioni étaient peints en vert wagon pour un effet de ton sur ton avec les bancs et les pelouses. Oh, les pelouses, oui, elles avaient fort pâli pendant le dernier été, violent, sans pitié pour le végétal, et les dernières pluies d'octobre les avaient trempées sans les raviver. Sans doute la racine en avait pris un mauvais coup et mettait du temps à s'en reprendre. C'était vrai pour les arbres. Les vignes avaient donné une exquise piquette, mais presque rendu leur âme dans cet ultime effort. Les pelouses étaient sèches malgré l'humidité, rudes au toucher, ramonnées par les taupes. Allez voir, on aurait dit l'esprit de Charles Gibout, ou ce qui en effleurait dans les regards vides qu'il essayait parfois d'élever jusqu'à l'horizon. Des passereaux piaillaient avec entêtement, les rares dans les volières, les courants sur les rameaux. Les volières aussi avaient hérité du même vert wagon, presque coulé sur les treillages. Et puis il y avait ces cris foudroyants d'un lémurien qu'on avait acheté, Dieu sait combien, pour la curiosité des écoles et l'aubaine des institutrices. On avait posé des panneaux de verre à sa cage. À partir du 25 octobre dernier, il avait eu le chauffage à la température de l'hospice, mitoyen de sa prison. On avait aussi creusé une tranchée pour le passage des canalisations. Grâce aux 10 panneaux, ses cris à un brin colmaté faisaient moins mal au cœur, sinon aux oreilles. Charles Gibout avait d'ailleurs remarqué que les hurlements de ce presque singe noir grisé qui faisait 5 grands effilements d'une étoile de mer mazoutée se mêlaient à ceux de quelques vieilles folles qui prenaient le vasistas de leur cachot d'hospice à titre de porte-voix. Et après de profondes réflexions sur cette circonstance, il pensait que le maire avait le sens des rapprochements pratiques. Un vivarium aussi éclectique aurait fait trépigner d'envie le prince de Monaco. Et Charles s'amusait de cette idée saugrenue parce qu'il avait gardé de sa jeunesse une capacité d'observation humoristique que les aléas de la vie semblaient lui avoir fait perdre. Quand il s'était placé devant la cage du lémurien, notre homme se croisait les mains dans le dos, tenait à 8 doigts la poignée de sa sacoche, levait son regard. La vie de cet animal encagé le fascinait. Un jour, il s'aperçut de l'aspect répétitif et dérisoire de ses propres gestes devant cette cage qui représentait sa propre vie. Des gosses aussi levaient les yeux en direction de la bête, mais ils ne réagissaient à la misère de la bête qu'en ressuçant une confiture marbrée par le vert gris des niques. Le primate enfermé, emprisonné, qui s'épuçait la queue dans les limbes d'un grave ennui, avait-on ne savait quoi d'orienter vers un passé merveilleux et sous l'air, sans la moindre ressemblance avec ce présent démentiel qui faisait son lot. Parfois, tel un miroir impitoyable, il renvoyait à notre homme le destin stupide de sa propre existence dans une petite ville de France en plein fin du XXe siècle. Mais cette image virtuelle ne s'imposait pas à lui de façon régulière. Quand il la voyait, cette image, son regard ne trouvait rien de particulier sous les losanges de la grille et n'aurait pas exprimé plus pour un observateur attentif. Puis il repartait, laissait de nouveau son visage tomber vers un sol lancinant. Parfois aussi son œil errait, arrivait à des fleurs mauves, jaunes, rouges, n'importe. Il restait insensible, ou bien, dans un geste automatique, sa main droite faisait à son front une visière. C'est que les couleurs éblouissent quand on n'y est pas habitué. À force de regarder les papiers au bureau ou la terre au jardin, sa rétine avait dû acquérir certains pigments nouveaux, abandonner l'usage des autres. Certes, il distinguait encore les couleurs, mais si ordinaires qu'il n'était plus guère capable de les séparer nettement. Elles n'avaient plus pour lui ni relief, ni dégradé. Si bien qu'en ce début de printemps, les parterres de jardin n'évoquaient rien pour ce promeneur qui finissait là sa journée. Le terreau noirci par l'hiver avait fini de se reposer, mais notre personnage le considérait comme une chose sans importance. Sans le vouloir, il choisit un banc et s'assit. Ses bords de pierre agglomérés rayonnaient encore le froid, mais le manteau protégeait. Le pantalon de flanelle aussi. Un petit vent folâtrait sans manifester d'originalité dans ses humeurs. Le sang rosé du crépuscule s'étirait en mare lente et huileuse. La journée avait été passable, mais Charles Gibou n'en avait pas joui plus que d'un jour de pluie ou de grisaille. Trop couvert, il avait transpiré au bureau. Sans faire le moindre effort physique, qu'arrivait le sens du simple et du méthodique. Derrière lui passèrent 2 enfants revenant de l'école. Hey, « Hé, vise un peu, Gigi !» Sous le crâne, les circonvolutions de Charles Gibou eurent ce qu'on peut appeler une contraction. Il venait d'entendre « Sigi !» Oui, c'était bien lui. À moins que ces morveux aient tout bonnement prononcé ses initiales à l'américaine, comme certains disent Sibi. Si-J égale Charles Gibou, ou bien Si-J Charles Gibou. Un nom gravé sur une tombe. Bon, ce devait être cela à l'évidence. Si-J Charles Gibou, 1900X-1900Y, se dit-il avec un frisson léger. « Suis un mort ?»« Pas un mort, non, moi, ce qui peut seulement en rester. Un squelette. Je n'existe pas. Je n'existe plus. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas. » Il a fallu, comme chaque jour, prendre la décision qui se présentait à l'heure fixe. Si la fantaisie l'avait pris d'avoir un quelconque retard, 10 minutes par exemple, il y aurait un programme de justifications, de narrations ennuyeuses. Il aurait à se couper dans des contradictions, à dire qu'il venait du jardin d'hiver, mais qu'il n'y avait rien vu, et on ne le croirait pas. C'était vrai qu'il n'y avait rien vu. Rien. Il n'y avait rien à voir au jardin d'hiver. D'hiver ou pas, un jardin ne peut rien montrer à Charles. Et Juliette ne le croirait pas de toute façon. Juliette, ah. Elle ne croyait jamais, Juliette Gibou, ce que disait Charles. Juliette, c'est une borne qui interroge, mais n'entend pas les réponses, ne les écoute pas, une sphinge, parce qu'elle a dans la tête une réponse toute préparée pour faire suite à la remarque acide. Charles, tu as des maîtresses. Oui, il avait des maîtresses, c'était vrai. Une foule de maîtresses. Comment a-t-il pu vivre sans maîtresse? Et ce mot de maîtresse avait une connotation étrange dans le cerveau de Charles, ou ce qui en tenait lieu. La vie en était une, la lumière une autre, la terre une troisième. Tout pour lui pouvait être femme à condition de n'être pas Juliette. « Monsieur Charles Gibou, avez-vous des maîtresses ?»« Oui, beaucoup. »« Des régiments, pourquoi ?»« Des noms, le tribunal vous écoute. »« Voilà, chaussures, pages de journaux, respiration, cigarette, voiture, pendule, radio, cintre, chapeau, meuble, stylo. » Il aurait été cruel de demander à cet homme pourquoi il s'était ainsi renfermé. Était devenu un bloc de refoulement. Encore des trucs, des explications, des justifications, des comptes rendus aux misères. Juliette était une chose, un objet plein de mollets, d'avant-bras, de boucles décolorées, de parfums qui sentaient, de fesses, de talons assurés dans la marche, de seins oblongs et tremblants, de mains potelées et sèches. Mais cet objet parlait. Il ne faisait pas que parler, cet objet, il cuisinait. Des gros plats de cœur de veau baignant dans un jus de tomate qu'on pourra réchauffer pour le dîner de demain, vous comprenez. Il épluchait les pommes de terre de Hollande et râpait les carottes qui comportent des vitamines, tu comprends. C'est bon pour les chevilles. Et cette femme chose avait le talent de donner à manger à un mort. C'était des légumes ou des viandes toujours archi-cuits, des sauces à n'en plus finir. Elle versait dans les verres et il fallait boire l'eau, le vin, la bière. Et cela, elle le faisait comme ça, sans plaisir apparent ni autorité manifeste. Après tout, Charles était un mort, dont elle ne demandait pas à ce mort s'il aimait ceci ou cela, s'il avait quelque préférence ou dégoût. Quant à l'objet Julien, oh, il avait de l'appétit. Il déglutissait à grand bruit et mâchait haut, si haut que Charles se retournait dans sa tombe et continuait de n'exister pas. Car Juliette était l'antithèse de Charles, non seulement dans le sexe, mais dans les conceptions de la vie. Lui ne concevait plus la vie, et ce mot n'avait pratiquement plus de sens, on le sait. Pourtant, à le voir et à lui parler, personne n'aurait cru que cet homme n'en était pas un, car il articulait des mots comme tout un chacun. « Bonjour, bonsoir, mais oui, je vais bien, je vous remercie, et vous-même » Il avait faim et soif, se nourrissait, évacuait, dormait, se levait. Rien que de normal dans les apparences, mais seulement des apparences. Le cerveau de notre homme était un trou, comme il y en a tant. Un être trou, une chose trou. Ceci a beau sembler singulier, il faut s'y habituer, faire l'effort de l'admettre. Peut-être pas un trou dans l'acception traditionnelle d'un espace vide, mais un trou de la pensée. Il nous arrive à tous de sentir de ces moments. Le sang circule, l'intestin recuit le bol alimentaire, le mésentère pompe les sucs, l'oreille reçoit, la main fonctionne. Et pourtant, nous disons à notre interlocuteur de nous excuser quand nous pensions à autre chose, bref, que nous avons eu un trou. C'est un accident, mais dans la situation de Sigy, le trou était une seconde nature. À l'inverse, Juliette pensait, réfléchissait, déduisait. La lecture d'un philosophe de peu de reflets ne l'aurait pas surprise, outre mesure. Elle aurait cherché à comprendre, analyser, critiquer. Mais son époux était un trou cérébral. Quand il gardait la mémoire de quelque chose, cette mémoire déformait beaucoup les contenus, même les plus simples. Ainsi, ce souvenir répété. Certains soirs, rentré à la maison, ayant déjà dîné, il s'était senti marcher comme un enterrement derrière un tombereau de matière vivante. Il se passait alors un étrange phénomène. Le tombereau, tiré par une ne savait quelle initiative, cessait de rouler sur les pavés du parquet. À vrai dire, le tombereau ne voulait pas, mais se balançait tel un échassier sur un seul rayon par côtés alternés avec une allure grotesque et suggérant un monstre de science-fiction. À son tour, Charles cessait de marcher et, sans qu'il comprît le pourquoi, il tombait à la renverse. Poussé par une volonté impérieuse et extérieure, il s'effondrait en travers du canapé. Il ne comprenait pas vraiment cette chute, et pour qu'il réagît, il aurait fallu qu'il pensât. Le panneau du tombereau s'ouvrait, la matière vivante se rassemblait, apparaissait, remuait ses teintes et ses tremblements, surgissaient des mouvements, des grognements, et tout cela commençait à glisser du plateau en forme d'une grosse langue qui s'étire sur une lèvre mouillée de sauriens revenus des âges fossiles. Tout le paquet lui tombait alors dessus, informe, languide, fiévreux, plastique, senteurs amoindries de plats mijotés. L'abaisse de pâte chaude s'étalait sur la viande poilue et craquelée de Charles, quand une partie infime de lui se déployait malgré soi dans un recoin de la pâte et subissait des ondulations, voire des pressions concentriques, qui faisaient s'en aller sa vie en viscosité et les aspirait dans des méandres incompréhensibles. Il se sentait alors vidé de son essence, sans l'avoir voulu, sans avoir attendu ni espéré quoi que ce fût. Tant pis pour ses maîtresses, tant mieux pour Juliette. C'était d'autant de prix. Une femme prend toujours sans jamais restituer. Autant que les gourgandis ne pourraient pas lui cambrioler, car on se doute que Juliette avait la jalousie féroce et tenace. Peu lui importait ce que Charles en aurait pensé, et la chose n'effleurait pas l'esprit de Madame Gigou. Son mari était son bien, et elle en disposait à sa convenance, dans les moments et les circonstances qu'elle déterminait sans autre forme de procès. Ensuite, il y avait un temps creux, indéfinissable, pendant lequel Charles restait étendu, cherchant à percevoir différents bruits d'eau qui coulent, des chiouchichis de robinets qu'on ouvre ou ferme, des sifflements de conduite, et c'était au milieu de ces musiques variées qu'il entreprenait un sommeil de brute. Oh, il y avait aussi ses retours à la maison, et il était mort, entre autres motifs, parmi ces conversations vespérales dont les termes sont parfois connus. Pour ne jamais plus les entendre ni les partager, il aurait souhaité jadis que pousse en son cœur cette fleur magnifique mais atroce qui s'épanouit sous les seins d'une étrange héroïne au joli nom de Chloé. Ce qui avait poussé dans son cœur à lui était un néant vaste et noir. Non pas un zéro mathématique, non pas une origine de la négation, mais une vie à l'envers, une antimatière de son être. Et pendant que monsieur retournait ce soir-là auprès de madame, le soleil se laissait aplatir entre deux écharpes. Il avait rencontré Juliette dans la rue quand elle revenait de son bureau. Lui revenait du sien, et ils s'étaient souvent croisés les yeux. Il l'avait regardée, elle avait baissé les paupières d'abord, puis elle avait regardé à son tour. Plus tard, elle esquissa un sourire, et Charles avait accordé de l'attention à ce visage qu'il trouvait intéressant sans lui trouver de qualités exagérées. Il y eut ensuite d'autres sourires. On ne pouvait pas dire que le regard de Juliette se distinguait par ce qu'on appelle le chien, non! Juliette avait un charme difficile à discerner et qu'un connaisseur n'aurait pas trouvé malgré de longues investigations. En réalité, Charles s'était attaché à Juliette par l'habitude, qui produit plus d'aveugles que la passion. En outre, comme il voyait peu les femmes, non pas qu'il ne ressentît aucun désir, mais timide, il était tout surpris que l'une d'elles pût s'intéresser à sa personne. Et dans les débuts, oh, cette surprise n'alla pas jusqu'à l'émotion. Il avait à la longue l'impression de la connaître depuis longtemps, d'avoir une amie qui lui faisait d'imperceptibles signes auxquels il n'éprouvait pas le besoin de répondre. Il s'imaginait qu'entre Juliette et lui, qu'entre cette jeune fille au nom inconnu et lui, il y avait la connivence d'une vieille camaraderie. Ainsi, sur elle, il le projetait. Ensemble, ils avaient la même rue à parcourir, par conséquent des goûts à rapprocher, des désirs orientés dans des directions parallèles, des attirances pour les mêmes objets. Il faisait parfois ce rêve bleu de croire que Juliette aurait besoin de lui. Sans lui avoir encore adressé la parole, sans connaître le timbre de sa voix ni la vraie moire de ses iris, Charles caressait des idées d'avenir. Ils se marieraient, ils habiteraient un petit appartement douillet, et les beaux-parents les laisseraient vivre. Ils auraient les moyens avec un double salaire. Bien. D'ailleurs, ce serait elle qui prendrait en main la gestion de ménage. Lui passerait le restant de ses jours à aimer la femme de son azur. Dans cet imaginaire, il passait les soirées et songeait, avec un rictus d'innocent, devant une assiette de cassoulet en conserve. Cet homme de tous les fantasmes entreprit d'imaginer les embrassements de la femme, les voluptés paradisiaques, quoique nimbées de morale, c'est-à-dire de consommation classique, de face à face tout ce qu'il y avait de plus normaux. L'un donne, l'autre reçoit, ça va mieux en le faisant. On attend de nouveaux désirs régulièrement assouvis. Ils ont un train et des heures tellement semblables que pour le plaisir, les choses iront de soi. Les raisonnements analogiques ont fait leur preuve depuis belle lurette. L'un et l'autre vont tôt à leurs occupations et reviennent tôt. Ce sera pratique. Alors Charles retrouvera les formes douces et chaudes de celle qu'il adore. Elle lui dira « Viens ». Il répondra « Oui ». On multipliera les folies, peut-être les égarements. Qu'importe après tout l'adulation de la chair. Et le mécanique, surtout plaqué sur du vivant, n'a jamais projeté personne dans le GN. Juliette le désirait, sinon plus qu'il ne ferait pour elle. Femme, s'il en devait être, elle aurait le culte de son propre corps, choisirait pour dompter l'homme des parfums subtils et provocants. L'instinct de vie et de jouissance ferait que tout son corps, habillé de rouge explosif, selon les fantaisies, serait du plus rêvé charnu. Elle mettrait un goût prolongé à se parer de dessous révélateurs et ravageurs, dont les transparences donneraient de folles visions sous des couleurs à faire mourir les ermites les plus endurcis. Affolée par ces imaginations de haute futaie, au milieu des avenues du sommeil, il plongeait sa figure dans l'oreiller pour étouffer les rugissements. Il sentait des soubresauts et sa vie solitaire éclatait inutilement dans les drames du métis. Oui, tous les deux, rassasiés de bonheur démentiel, ils iraient en promenade pour n'y parler que de bagatelles amoureuses. On se coulerait les yeux et qui dirait « Encore !» Ils se précipiteraient, courant et se tenant par la main, elle les cheveux irisés. Ils s'aimeraient partout. La baignoire, l'évier, la voiture en stationnement, la bicyclette, les pelouses des étés complices, l'armoire, le grenier, le garage, les ombres dans les angles des porches, les sous-bois, ben tout serait bon. Épuisés, ils se coucheraient tard, et Charles et Juliette seraient bien serrés, et Charles s'endormirait au creux de Juliette, toute sa vie et même après. Et ce rêve se transformait en réalité puisqu'il pouvait se réaliser. Leur travail deviendrait une joie, se meubler un assouvissement. Plutôt que plus tard, ils auraient une automobile. Charles la voyait rouge comme la bouche de Juliette, et aussi confortable. Cossue, profonde. Ils s'en serviraient les fins de semaine et durant leurs vacances. Ils feraient luire la carrosserie. À l'avance, il en effleurait les formes, les ailes rondes et puissantes, la calandre avaleuse d'air et de vitesse, le coffre avantageux. Elle emmènerait les amoureux sur des bords d'océan, par des pays inconnus, dont les beautés changent assez vite pour en renouveler l'intérêt. Un travail lent se faisait dans cette tête inspirée, rendu fertile par les frustrations et la répétition d'un quotidien horizontal à l'indéfini. La médiocrité, la routine, la raideur impitoyable des chiffres l'engageaient à la fuite en avant. La tentation lui en était déjà venue à l'époque où il s'était mis à construire des avions en carton. Un tube de colle, une planche prédessinée avec des couleurs, une paire de ciseaux. Il collait les parties de son modèle qu'ensuite il suspendait à son plafond, et quand il se couchait, une escadrille l'emportait dans les hauteurs. Il cachait soigneusement des photos de femmes jamais entièrement nues, collectionnait les publicités de soutien-gorge, les réclames de bas fins et les crampes. L'occasion finit par se présenter de parler à l'objet de ses désirs, bien que la réalité lui fît peur. Il passerait pour un homme vulgaire et sans éducation. Se faire présenter, mais par qui? Ce nouveau programme fut à l'origine de tracas, sinon d'insomnie. Parfois, il lui arrivait d'en rire et de se dire qu'il était fou. Souvent, la solitude et les obsessions viennent à bout des santé les plus solides, mais dans son cas, il faut croire que rien n'était définitivement perdu. Il se mit à mesurer la distance entre les trottoirs, et un jour qu'il n'y avait personne dans cette rue, il en arpenta la largeur entre caniveaux. 8 mètres. 8 mètres qui pouvaient enfin changer sa vie. L'effort fut surhumain. Un soir, entre chien et loup, il aborda l'objet et l'épousa. Vers les 17h30, Charles Gibou sortit du jardin d'hiver le long de sa démarche automatique. Il était guidé par cet inconscient que l'on ne comprend jamais bien, qui fait que l'on traverse sans accident des rues, des villes, des vies entières. Faire attention, mais à quoi? Est-ce finalement utile? Depuis 8 ans qu'ils s'étaient unis, si l'on peut dire, Charles et Juliette avaient suivi un ruban qui, du rose, était passé à l'incolore. Le sourire de Juliette avait tout placé sur des rails. On s'était parlé, tenu par la main, bécoté sur les bancs, enfoncé dans les cordes, dans les draps du plaisir, puis de l'existence quotidienne. On avait eu meubles, voitures, pavillons à crédit, dans une paisible impasse aussi murée que l'avenir. Au crépuscule du jour où se poursuit son nouveau retour à la maison, il suit le trottoir gauche de la rue des Lilas, qui mesure 75 numéros, vers le milieu de laquelle il tournera encore à gauche pour aborder l'impasse des Campanules. Car dans cette petite ville, outre le jardin, on aime les fleurs parce qu'on redoute la couleur des gens célèbres. Il est si rodé, si fait, qu'il n'aura pas distingué les regards indiscrets, prudents, suspicieux, qui le suivront passer selon sa coutume. Il n'aura pas eu l'angoisse d'être reconnu par les voisins furtifs. Il saura qu'il est assuré dans la tranquillité. Un mort n'appréhende plus, pas même les milliers de visages qui apparaissent aux jours de souffrance de grands ensembles. Une fois de grande inspiration, comme pour toutes les inspirations malheureuses, le maire, en compagnie de sa municipalité, reçut la visite d'un de ces hommes creux et riches de malheur qu'on appelle les promoteurs immobiliers. Et quand ce monsieur offrit aux édiles d'organiser la misère humaine, de lui donner l'eau courante aux étages, les vues imprenables et des ascenseurs, l'assemblée auguste, composée de notaires, de légumiers et de politiciens de tous bords, tétant au pis de la spéculation, lui laissa un accord qui répondait à la promesse de multiples arrosages. Chacun de ces sénateurs espéra se glisser au moins sous le panier dès qu'un homme charitable aurait l'idée juteuse d'en faire danser les anses. Et l'on construisit. On habita, on se mit à mourir d'ennui le long de ce trottoir de la rue des Lilas, où naquit un clapier dont chaque matin un camion jaune changeait les litières. Et chaque jour, couvrable que le bon Dieu fait, matin et soir, notre comptable longeait cette garenne sans jamais s'être demandé rien. Qu'il eût ou non des étages, une ou plusieurs entrées, un toit de tuiles ou d'ardoises, une terrasse de béton, des grilles ouvrables et des mangeoires, un clapier était un clapier. Un œil d'une seconde suffit pour le constater. Si le choix avait dû se présenter, comme tout Français moyen sondé par les statistiques, le mari de Juliette aurait opté pour le pavillon. Et puisque justement, il en avait un, peut lui apporter l'immeuble à 6 étages et 6 numéros. Charles Gibou marche à pied réglé. Il ne voit rien, il ne pense rien. Une ultime gloire cosmique éclate dans les millions du crépuscule. Charles va rentrer pour dîner. Il n'en a pas le souci puisque Juliette aura pensé à tout. Ce qu'il a fait revenir du jardin public, ce n'est pas la faim. Charles n'a pas faim, n'a pas sommeil, n'a pas soif, n'a pas fini, n'a pas commencé. Il est un amoncellement de négations. Il y a seulement de l'automatique dans cette démarche traditionnelle. L'heure en est précise. Voilà passé le monsieur de 17h45. Sur lui, on peut régler toutes les montres. Cette forme du bizarre banal se déplace avec son volume sans couleur. À la voir passer ainsi, aucun curieux derrière son rideau n'aurait l'idée surgrenue de se demander la marque choisie par cette ombre pour ses charentaises ou son savon à barbe. Aucune femme, dans sa tristesse mortelle et conjugale, n'oserait se dire qu'avec cet homme, elle aurait pu trouver un destin différent. Personne n'aurait l'idée de dire à cet inconnu fantomatique « Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer l'heure ?» Et si tel était le cas, monsieur étoufferait mal sa surprise et tremblerait. À peine pourrait-il répondre qu'il est 6h moins le quart du soir et qu'on est rue des Lilas. Ah oui, la rue des Lilas. Le 51 a 6 escaliers et dans le hall bas de l'escalier C, une fille de 15 ans porte le prénom de Nicole. Sur 10 filles, il y en a bien une pour s'appeler Nicole. Son saint patron a des parfums de petits enfants au saloir, morts eux aussi. Mais c'est un mort qui marche, et comme il ne voit rien dans son somnambulisme chronique, il n'a pas aperçu cette naissance de femme qui le regarde depuis 2 mois, et depuis 3 mois l'observe. Car elle s'est prise d'un sentiment d'abord vague pour cet homme. Ils sont dans un style identique de vie, pour tout. Nicole est méthodique, très appliquée, solitaire. Elle roule comme un train, et cet homme devient à ses yeux l'objet d'un attendrissement qui grandit. Nicole sait que, dans la rue des Lilas, on la considère comme une futée, capable de vacherie ou de mauvaise conduite. Dans les autres rues, elle a une sale réputation. Ses parents, les Ancelles, passent pour timbrés. On dit le père ivrogne, la mère une folle abigoudie. Souvent on crie dans l'appartement. D'ailleurs, il y avait eu des histoires et les voisins s'étaient plaints du tapage, si bien que la police avait dû faire des descentes, mais sans résultat probant. De toutes les façons, les disputes finissaient par une paire de claques à Nicole, dont la première faute majeure était d'exister sans que personne ne lui ait demandé. Certes, elle n'était pas la seule dans l'immeuble ou le quartier, mais le bruit des Ancelles la faisait remarquer plus qu'une autre, et les gens parlaient d'elle, jamais pour la plaindre. Et puis, Nicole Ancelles était curieuse, comme toutes les femmes, mais sa faute majeure était son incomparable beauté, et la sensation d'être jolie donne aux filles des velléités d'indépendance. Cheveux très blonds, à la limite du cendré, yeux gris, une jambe athénienne, taille de guêpe. Son moindre pas attirait le regard et un élan de surprise. On comprenait mal que cet enfant du peuple pût avoir l'amble d'une princesse du meilleur sang. Son père laissait parfois dans l'escalier des traces de son ivresse, mais on lui en voulait pas trop, dans le voisinage immédiat. Sa femme lui réglait assez de comptes, il faisait pitié. La mère de Nicole était petite, brune, nerveuse de chair et de sentiments, la lèvre mince, pingre, violente, voix aiguë et langue de vipère. Nicole était sortie de ça, et on avait peine à le croire. Encore plus de peine à en avoir la certitude. Il y a du scandale à jaillir, parfaite, d'un accouplement aussi aberrant, et même si la règle est assez générale, on n'arrive jamais à l'admettre. Mais, en dépit de ses péchés de bistrot, le père avait du charme et gardait quelques beaux traits. Nicole poussa dans cette jachère de l'intelligence, nagea dans cette fosse de la laideur mentale. Incarnation de tous les refus, à moitié hystérique, disait-on, le sommeil agité, elle avait pourri 30 ou 40 paillasses. Elle ne savait plus. On le lui avait dit sans se contenter de le lui faire payer, et jusqu'à ce jour, ses parents lui avaient décoché des gentillesses d'entre 2 vins. Ce soir-là, à 4h30, au retour du lycée, où ses résultats étaient excellents, elle avertit qu'elle ne voulait plus personne dans sa chambre sans sa permission. De tels propos étranglèrent Louise et Ferdinand, dont les colliers montèrent jusque par-dessus le rouge des oreilles, lorsque Nicole ajouta Mais tous les deux, vous broutez du mauvais côté des barbelés. À l'avenir, il me faudra du bon trèfle pour votre luzerne et bonjour. Mais tu vas surtout la boucler, relança Louise. Du foin, dit Nicole. Sous Louis XIV, je suis majeur à 15 ans. Je paie ma pension avec les allers-retours que je reçois. Ferdinand n'aurait pas dû se lever pour lui envoyer une gifle à sa fille. Il manqua la joue esquivée, perdit l'équilibre, cassa deux verres sur la table, pulvérisa la carafe et projetant le vin dans le giron de sa femme, laquelle hurla en direction de Nicole. « Mais qu'elle fiche le camp une bonne fois, cette caboche qui nous crève la tirelire !» Nicole avait disparu sans faire trop claquer la porte palière, car l'énervement de ses parents prenait des proportions qu'elle jugeait dangereuses. Vers les 17h30, Charles Gibou sortit du jardin d'hiver le long de sa démarche automatique. Il était guidé par cet inconscient que l'on ne comprend jamais bien, qui fait que l'on traverse sans accident des rues, des villes, des vies entières. Faire attention, mais à quoi? Est-ce finalement utile? Depuis 8 ans qu'ils s'étaient unis, si l'on peut dire, Charles et Juliette avaient suivi un ruban qui, du rose, était passé à l'incolore. Le sourire de Juliette avait tout placé sur des rails. On s'était parlé, tenu par la main, bécoté sur les bancs, enfoncé dans les cordes, dans les draps du plaisir, puis de l'existence quotidienne. On avait eu meubles, voitures, pavillons à crédit, dans une paisible impasse aussi murée que l'avenir. Au crépuscule du jour où se poursuit son nouveau retour à la maison, il suit le trottoir gauche de la rue des Lilas, qui mesure 75 numéros, vers le milieu de laquelle il tournera encore à gauche pour aborder l'impasse des Campanules. Car dans cette petite ville, outre le jardin, on aime les fleurs parce qu'on redoute la couleur des gens célèbres. Il est si rodé, si fait, qu'il n'aura pas distingué les regards indiscrets, prudents, suspicieux, qui le suivront passer selon sa coutume. Il n'aura pas eu l'angoisse d'être reconnu par les voisins furtifs. Il saura qu'il est assuré dans la tranquillité. Un mort n'appréhende plus, pas même les milliers de visages qui apparaissent aux jours de souffrance de grands ensembles. Une fois de grande inspiration, comme pour toutes les inspirations malheureuses, le maire, en compagnie de sa municipalité, reçut la visite d'un de ces hommes creux et riches de malheur, qu'on appelle les promoteurs immobiliers. Et quand ce monsieur offrit aux édiles d'organiser la misère humaine, de lui donner l'eau courante aux étages, les vues imprenables et des ascenseurs, l'assemblée auguste, composée de notaires, de légumiers et de politiciens de tous bords, tétant au pis de la spéculation, lui laissa un accord qui répondait à la promesse de multiples arrosages. Chacun de ces sénateurs espéra se glisser au moins sous le panier dès qu'un homme charitable aurait l'idée juteuse d'en faire danser les anses. Et l'on construisit. On habita, on se mit à mourir d'ennui le long de ce trottoir de la rue des Lilas, où naquit un clapier dont chaque matin un camion jaune changeait les litières. Et chaque jour, ouvrable que le bon Dieu fait, matin et soir, notre comptable longeait cette garenne sans jamais s'être demandé rien. Qu'il eût ou non des étages, une ou plusieurs entrées, un toit de tuiles ou d'ardoises, une terrasse de béton, des grilles ouvrables et des mangeoires, un clapier était un clapier. Un œil d'une seconde suffit pour le constater. Si le choix avait dû se présenter, comme tout Français moyen sondé par les statistiques, le mari de Juliette aurait opté pour le pavillon. Et puisque justement, il en avait un, peut lui apporter l'immeuble à 6 étages et 6 numéros. Charles Gibou marche à pied réglé. Il ne voit rien, il ne pense rien. Une ultime gloire cosmique éclate dans les millions du crépuscule. Charles va rentrer pour dîner. Il n'en a pas le souci puisque Juliette aura pensé à tout. Ce qu'il a fait revenir du jardin public, ce n'est pas la faim. Charles n'a pas faim, n'a pas sommeil, n'a pas soif, n'a pas fini, n'a pas commencé. Il est un amoncellement de négations. Il y a seulement de l'automatique dans cette démarche traditionnelle. L'heure en est précise. Voilà passé le monsieur de 17h45. Sur lui, on peut régler toutes les montres. Cette forme du bizarre banal se déplace avec son volume, sans couleur. À la voir passer ainsi, aucun curieux derrière son rideau n'aurait l'idée surgrenue de se demander la marque choisie par cette ombre pour ses charentaises ou son savon à barbe. Aucune femme, dans sa tristesse mortelle et conjugale, n'oserait se dire qu'avec cet homme elle aurait pu trouver un destin différent. Personne n'aurait l'idée de dire à cet inconnu fantomatique « Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer l'heure ?» Et si tel était le cas, monsieur étoufferait mal sa surprise et tremblerait. À peine pourrait-il répondre qu'il est 6h moins le quart du soir et qu'on est rue des Lilas. Ah oui, la rue des Lilas. Le 51 a 6 escaliers et dans le hall bas de l'escalier C, une fille de 15 ans porte le prénom de Nicole. Sur 10 filles, il y en a bien une pour s'appeler Nicole. Son saint patron a des parfums de petits enfants au saloir, morts eux aussi. Mais c'est un mort qui marche, et comme il ne voit rien dans son somnambulisme chronique, il n'a pas aperçu cette naissance de femme qui le regarde depuis 2 mois, et depuis 3 mois l'observe. Car elle s'est prise d'un sentiment d'abord vague pour cet homme. Ils sont dans un style identique de vie, pour tout. Nicole est méthodique, très appliquée, solitaire. Elle roule comme un train, et cet homme devient à ses yeux l'objet d'un attendrissement qui grandit. Nicole sait que, dans la rue des Lilas, on la considère comme une futée, capable de vacherie ou de mauvaise conduite. Dans les autres rues, elle a une sale réputation. Ses parents, les Ancelles, passent pour timbrés. On dit le père ivrogne, la mère une folle à bigoudi. Souvent on crie dans l'appartement. D'ailleurs, il y avait eu des histoires et les voisins s'étaient plaints du tapage, si bien que la police avait dû faire des descentes, mais sans résultat probant. De toutes les façons, les disputes finissaient par une paire de claques à Nicole, dont la première faute majeure était d'exister sans que personne ne lui ait demandé. Certes, elle n'était pas la seule dans l'immeuble ou le quartier, mais le bruit des Ancelles la faisait remarquer plus qu'une autre, et les gens parlaient d'elle, jamais pour la plaindre. Et puis, Nicole Ancelles était curieuse, comme toutes les femmes, mais sa faute majeure était son incomparable beauté, et la sensation d'être jolie donne aux filles des velléités d'indépendance. Cheveux très blonds, à la limite du cendré, yeux gris, une jambe athénienne, taille de guêpe. Son moindre pas attirait le regard et un élan de surprise. On comprenait mal que cet enfant du peuple pût avoir l'amble d'une princesse du meilleur sang. Son père laissait parfois dans l'escalier des traces de son ivresse, mais on ne lui en voulait pas trop. Dans le voisinage immédiat. Sa femme lui réglait assez de comptes, il faisait pitié. La mère de Nicole était petite, brune, nerveuse de chair et de sentiments, la lèvre mince, pingre, violente, voix aiguë et langue de vipère. Nicole était sortie de ça, et on avait peine à le croire. Encore plus de peine à en avoir la certitude. Il y a du scandale à jaillir, parfaite, d'un accouplement aussi aberrant, et même si la règle est assez générale, on n'arrive jamais à l'admettre. Mais, en dépit de ses péchés de bistot, le père avait du charme et gardait quelques beaux traits. Nicole poussa dans cette jachère de l'intelligence, nagea dans cette fosse de la laideur mentale. Incarnation de tous les refus, à moitié hystérique, disait-on, le sommeil agité, elle avait pourri 30 ou 40 paillasses. Elle ne savait plus. On le lui avait dit sans se contenter de le lui faire payer, et jusqu'à ce jour, ses parents lui avaient décoché des gentillesses d'entre deux vins. Ce soir-là, à 4h30, au retour du lycée, où ses résultats étaient excellents, elle avertit qu'elle ne voulait plus personne dans sa chambre sans sa permission. De tels propos étranglèrent Louise et Ferdinand, dont les colliers montèrent jusque par-dessus le rouge des oreilles, lorsque Nicole ajouta « Mais tous les deux, vous broutez du mauvais côté des barbelés. À l'avenir, il me faudra du bon trèfle pour votre luzerne et bonjour. » « Mais tu vas surtout la boucler !» relança Louise. « Du foin !» dit Nicole. « Sous Louis XIV, je suis majeur à 15 ans. Je paie ma pension avec les allers-retours que je reçois. » Ferdinand aurait pas dû se lever pour lui envoyer une gifle à sa fille. Il manqua la joue esquivée, perdit l'équilibre, cassa deux verres sur la table, pulvérisa la carafe, et projetant le vin dans le giron de sa femme, laquelle hurla en direction de Nicole. « Mais qu'elle fiche le camp une bonne fois, cette caboche qui nous crève la tirelire !» Nicole avait disparu sans faire trop claquer la porte palière, car l'énervement de ses parents prenait des proportions qu'elle jugeait dangereuses.